Si on s'imagine un instant en train de lire un très vieil annuaire téléphonique, on parcourt des pages et des pages de noms, de dates, de lignées familiales, c'est d'une aridité absolue.
Ouais, c'est clair, c'est le genre de lecture complètement soporifique.
Exactement. Le rythme est super monotone et répétitif. Et puis, on tourne la page. Et bam, sans aucun avertissement, ce registre d'état civil se transforme en un véritable scénario de film catastrophe à gros budget.
Avec l'apparition soudaine d'entités surnaturelles et tout le reste, ouais.
C'est ça. On se retrouve avec une corruption mondiale incontrôlable, des tyrans légendaires et même un cataclysme cosmique qui engloutit la planète. En fait, le contraste est d'une violence inouïe.
Et cette rupture de ton, bah, c'est vraiment l'une des techniques narratives les plus saisissantes de la littérature antrique. On a souvent tendance à vouloir compartimenter les textes, tu vois. D'un côté, les chroniques historiques bien ennuyeuses, et de l'autre, les grandes épopées mythologiques. Mais dans les récits du Proche-Orient ancien, ces éléments ne sont pas séparés. Ils sont tissés ensemble pour provoquer un vrai choc cognitif chez le lecteur.
Eh ben c'est très précisément ce choc cognitif qu'on va décortiquer aujourd'hui. On plonge au cœur de l'un des passages les plus mystérieux et débattus de la littérature antique, la transition fulgurante entre le chapitre 5 et le chapitre 6 de la Genèse.
C'est un passage fascinant, vraiment.
Ah oui, je suis prêt à parier que ça va être passionnant. En nous appuyant sur les travaux du docteur Kenneth Matthews, qui est un grand spécialiste de ces textes, notre mission c'est de comprendre comment un texte antique utilise des listes généalogiques et des âges impossibles pour expliquer l'effondrement de l'humanité.
Comprendre que l'ordre extrême de la généalogie et le chaos du jugement qui suit, bah c'est pas une erreur de montage, c'est délibéré.
C'est pas juste des textes collés au hasard.
Non, pas du tout. L'auteur construit un pont narratif. La structure très rigide des généalogies, c'est une toile de fond pour mesurer cliniquement la dégradation humaine. Et pour saisir l'ampleur du chaos du chapitre 6, il faut d'abord comprendre comment l'ordre initial fonctionnait.
Alors entrons dans cette structure. Le texte biblique utilise souvent des généalogies, mais il y a une distinction mécanique hyper intéressante ici. On a souvent affaire à des généalogies segmentées, genre l'arbre généalogique classique.
Où on liste les enfants, les frères, les cousins, pour montrer l'expansion d'un clan, comme au chapitre 10 par exemple.
Voilà. Mais au chapitre 5, on a une généalogie linéaire. On prend un seul individu par génération, de père en fils, et on ignore totalement les branches latéraux. C'est comme un faisceau laser pointé à travers l'histoire.
Et cette forme linéaire, elle a une fonction théologique très claire. Ça démontre la supervision de Dieu sur l'histoire. En traçant cette ligne droite d'Adam à Noé, le texte montre qu'une bénédiction originelle est préservée.
Surtout quand on regarde le contexte avec le chapitre 4, hein ?
Exactement. Le chapitre 4 décrit la lignée de Caïn, le meurtrier, une lignée marquée par la violence. Et au chapitre 5, on a la lignée de Seth, la lignée pieuse, qui agit comme un contrepoids moral.
J'aime bien voir ça comme une course de relais à travers les siècles. Les patriarches se transmettent un témoin, et ce témoin, bah, c'est l'espoir d'une rédemption. Mais il y a un truc qui vient tout casser dans le texte.
Tu penses au refrain sur la mort ?
Ouais. Si le but, c'est de montrer une lignée parfaite, pourquoi l'auteur s'acharne à répéter à chaque fin de biographie « et puis il mourut » ? La sentence tombe comme un couperet à chaque fois.
C'est vrai que c'est lourd. Mais cette répétition mécanique, c'est le cœur du message, en fait. L'auteur veut surtout pas qu'on oublie la réalité de la condition humaine après la chute.
Donc même la lignée pieuse est touchée.
Tout à fait. Elle a beau porter la promesse, elle reste soumise à la mortalité physique. L'espoir est là, mais l'horizon semble définitivement bouché par le tombeau. Ça crée une atmosphère de tragédie inéluctable.
Ce qui rend l'exception de la septième génération encore plus dingue. Soudain, au milieu de ce grand cimetière textuel, on tombe sur Enoch. Ce gars brise complètement le moule. Il vit 365 ans, et c'est pas un chiffre au hasard, je suppose.
Ah bah non. Le nombre 365, ça représente l'année solaire complète. Dans l'Antiquité, ça symbolise une vie qui a atteint sa perfection absolue, une plénitude.
Et le texte dit qu'il marcha avec Dieu.
C'est ça, ça montre une intimité restaurée avec le divin, et la conséquence, c'est que le terrible refrain est brisé. Enoch ne meurt pas, il est enlevé dans la présence de Dieu.
C'est quand même une percée conceptuelle majeure, tu trouves pas ? L'idée de contourner la mort physique, ça prouve qu'il y a une destinée au-delà. C'est comme un flash de lumière dans un chapitre super sombre.
Une vraie lueur d'espoir, ouais. Et cet espoir est transféré quelques générations plus tard sur un enfant, Noé.
Ah oui, Noé. Son père, Lamech, qui a quand même 192 ans à ce moment-là, l'appelle Noé par rapport à un jeu de mots hébreux, c'est ça ?
Oui. La sonorité de Noé est liée au verbe qui veut dire réconforter ou soulager. La mèche espère littéralement que cet enfant va soulager l'humanité du travail épuisant sur un sol maudit.
Il attend de lui qu'il soit une sorte de nouvel Adam pour réinitialiser la machine. Mais en parlant d'âge, comme les 182 ans de Lamèche, ça nous amène au truc le plus déroutant du texte, les mathématiques.
Les fameuses longévités.
Voilà. Comment on est censé comprendre un gars comme Mathusalem qui aurait vécu 969 ans intact? Notre esprit moderne bug complètement. J'ai déjà entendu dire que ces âges désignaient peut-être des dynasties ou des clans au lieu d'individus.
Ouais, c'est une théorie populaire, mais honnêtement, syntaxiquement, ça tient pas la route. Le texte donne l'âge exact du père à la naissance de son fils, puis les années qui suivent. C'est très spécifique à des individus.
Donc on oublie les dynasties. Mais alors, comment on explique ça alors?
En fait, il faut regarder la littérature de l'époque. Des textes comme la liste royale sumérienne font exactement la même chose.
Ah oui, le texte qui liste les rois avant leur propre mythe du déluge.
Exactement. Et dans cette liste, certains rois règnent pendant 72 000 ans. Ça prouve qu'il y avait une mémoire culturelle partagée dans toute l'Antiquité. L'idée qu'à l'aube de l'humanité, les ancêtres avaient une vitalité inimaginable.
D'accord. Mais la Genèse ne va pas jusqu'à 72 000 ans.
Non, parce que l'intérêt de la Genèse, c'est pas les records. C'est la trajectoire de la chute, la réduction progressive de la vie.
C'est une vraie chute libre d'ailleurs. On part de Mathusalem à 969 ans, puis après le déluge, la lignée de Sem tombe à une moyenne de 344 ans, ensuite Abraham meurt à 175 ans, Moïse à 120.
Et dans le psaume 90, on stabilise autour de 70 ou 80 ans.
C'est une dégringolade totale. Ça me fait penser à la batterie d'un téléphone portable. Au début, tu sors de l'usine avec une autonomie parfaite. Mais un virus, ici le péché, est introduit dans le système.
J'aime beaucoup cette analogie.
À chaque génération, le code corrompu est transmis et la batterie perd en capacité maximale, passant de 1000 ans à 80 ans. Mais est-ce que le texte suggère vraiment que la morale affecte la biologie cellulaire?
Pour un auteur de l'Antiquité, oui, absolument. Séparer la morale du monde physique, c'est un truc très moderne. Pour eux, le cosmos est uni. La rébellion spirituelle a un impact direct sur la matière. Le péché, c'est une force qui décompose la réalité physique.
Donc la baisse des âges, c'est la mort qui s'infiltre dans le code génétique de l'humanité. Et ça nous amène au fameux point de rupture critique au début du chapitre 6.
Là où la frontière est brisée.
Oui, la population explose, mais la méchanceté aussi. Et c'est là qu'on a cette histoire bizarre entre les fils de Dieu et les filles des hommes.
Le texte dit que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils les prirent pour femmes. Il y a un écho glaçant ici, parce que le mot hébreu pour belle, c'est le même que bon dans Genèse 1.
Quand Dieu regarde sa création parfaite.
C'est ça. C'est une ironie tragique. Il voit un truc bon, et s'en empare par désir pur, ce qui rappelle complètement Ève dans le jardin d'Éden.
L'humanité qui répète la même erreur en boucle. Mais alors, qui sont ces fils de Dieu? C'est un des plus gros débats bibliques. Il y a la théorie science-fiction, on va dire.
La théorie des anges déchus, très populaire dans l'Antiquité et aujourd'hui. Elle se base sur le livre de Job, où fils de Dieu désigne les anges.
Donc l'idée, c'est que des anges franchissent la barrière interdimensionnelle parce qu'ils sont obsédés par des humaines. Ça crée des hybrides. C'est un bon scénario de film, mais Matthieu ne se penche pas pour ça, si.
Non, Matthieu préfère une approche plus ancrée dans le contexte humain qu'on vient de lire. Le mot hébreu « Elohim », traduit par « Dieu », peut aussi vouloir dire « pieux » ou « puissant ».
Ah, donc les fils de Dieu, ça serait les hommes de la lignée de Seth.
Exactement. La fameuse lignée pieuse. Et les filles des hommes représenteraient la lignée de Caïn, ou les autres. Ce qu'on voit ici, c'est pas une invasion d'anges, mais un effondrement sociologique.
La lignée de Seth s'assimile et perd son identité en se mariant n'importe comment. Mais attends, je me fais l'avocat du diable. Pourquoi un simple mariage mixte mériterait l'éradication totale de la planète? C'est un peu extrême.
Il faut comprendre l'importance des frontières à l'époque. L'identité spirituelle reposait sur la séparation avec les autres nations. Pas pour des raisons ethniques, attention, mais théologiques.
Pour éviter d'importer les dieux étrangers.
Voilà. Les mariages mixtes amenaient l'idolâtrie. Et ces cultes impliquaient des rites de fertilité violents. Une dégradation de la dignité humaine. C'est l'effondrement pur et simple de l'ordre moral. La seule lignée fidèle s'empoisonne délibérément.
D'où le jugement qui s'abat.
Et c'est intéressant parce que Dieu ne mentionne jamais d'ange dans son jugement. Il punit seulement l'humanité, la chair.
C'est l'argument principal pour la théorie humaine, en effet.
La sentence tombe. Dieu dit que son esprit ne contestera pas toujours avec l'homme et limite ses jours à 120 ans. Et juste après ça, le texte nous lâche le mot « Néphilim ».
Les fameux géants.
Enfin, traduit souvent comme ça.
Ouais, on pense au livre des Nombres, quand les espions de Moïse reviennent terrorisés de Canaan en disant qu'ils ont vu des Néphilim, qu'ils se sentaient comme des sauterelles à côté, ça nourrit l'idée de mutants géants.
Sauf que Matthews déconstruit complètement ce mythe. Dans la Genèse, les Néphilim sont décrits comme des héros de l'Antiquité, des hommes de renom. C'était des seigneurs de guerre contemporains de cette époque.
Des figures d'hyper-violence, quoi. Dans les notes de Matthews, il y a cette analogie géniale avec Dark Vador. Si aujourd'hui tu dis de ton patron que c'est un Dark Vador, personne va penser que c'est un cyborg asthmatique avec un sabre laser.
C'est clair. On comprend tout de suite que c'est un tyran.
Et pour les espions du Livre des Nombres, c'est pareil. Le déluge a effacé les vrais Néphilim. Donc quand ils utilisent ce mot des siècles plus tard, c'est juste une figure de style face à une culture militaire écrasante. C'est leur croque-mitaine culturelle.
Exactement. Ça nous donne une idée terrifiante de la société avant le déluge. Un monde dominé par des despotes où la violence était systémique. Et face à ça, la réaction de Dieu est fascinante.
On pourrait s'attendre à la foudre d'un Dieu tyrannique en colère. Mais non, c'est une réaction super émotionnelle.
C'est bouleversant même. Le texte dit que Dieu s'affligea dans son cœur. C'est le chagrin intime d'un parent qui voit ses enfants s'autodétruire. Il pleure la perversion de son œuvre. Il n'est pas juste en colère.
C'est un parent au cœur brisé qui doit amputer pour sauver ce qui reste. Parce que la violence est hors de contrôle. Et comme l'humain est lié à la Terre, son jugement entraîne la biosphère entière.
Et c'est là que Matthews amène une idée vertigineuse. Le déluge, c'est pas juste une grosse pluie pour nettoyer la Terre, c'est un détricotage littéral de la création.
Un détricotage, c'est fort comme terme.
Si tu retournes à Genèse 1, la création c'était séparer les eaux, imposer des limites au chaos pour faire un espace habitable. Le déluge, c'est l'inversion de ça. Dieu retire les barrières.
Les eaux d'en haut et d'en bas se rejoignent.
Voilà, le monde retourne à son état informe et vide. La Terre redevient un tombeau aquatique, le chaos originel.
C'est d'une mélancolie absolue, l'effacement du chef-d'œuvre. Mais ça donne une puissance folle au verset 8. « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Au milieu de l'annulation du monde, Dieu préserve un reste, une graine pour une nouvelle humanité. »
La fidélité divine qui s'obstine malgré tout. On a bouclé le pont narratif, des généalogies de l'espoir, jusqu'au jugement et à la préservation de Noé.
Si on résume, on a vu comment les généalogies portaient l'espoir, comment la chute des longévités mesurait la corruption et comment la perte des frontières morales a créé un monde de violence menant au détricotage cosmique.
C'est une exploration magistrale de la vulnérabilité humaine. Ces textes antiques montrent que quand on abandonne les repères spirituels, on glisse inévitablement vers la violence.
C'est d'une pertinence folle pour aujourd'hui. D'ailleurs, cette idée du déluge comme un détricotage, un retour aux eaux du chaos pour purger le monde, ça m'a fait penser à un truc fascinant concernant le baptême.
Ah oui, la symbolique de l'eau.
Ouais. Si on voit le déluge comme ça, l'immersion dans l'eau lors d'un baptême, c'est pas juste un bain pour se laver. C'est littéralement une mort symbolique. On plonge dans les eaux de l'abîme, on accepte la destruction du vieux monde corrompu.
C'est une réplique du cataclysme à l'échelle personnelle, en fait.
Exactement. Et en ressortir, c'est participer à l'émergence d'une nouvelle création. Comme la terre ferme après le retrait des eaux, la nouvelle vie exige de passer par les eaux du chaos.
C'est une continuité théologique vraiment remarquable à travers les siècles.
Ça montre bien que ces vieux textes ont encore des secrets à révéler. La prochaine fois que vous croiserez une généalogie aride, méfiez-vous, la page suivante cache peut-être la fin d'un monde. C'est un truc à laisser mûrir jusqu'à notre prochaine exploration.